marque-page.
Et il te fait rire ce jingle, Elsa.
Ah oui, beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Nous subissons depuis quelques jours un temps absolument exécrable. Il pleut sans arrêt, il fait froid, les trottoirs sont glissants, la Garonne a pris une teinte boueuse et l'odeur de l'humidité dans les rues est plus désagréable que d'habitude. Comme tout le monde, ce temps me déprime. Néanmoins, il me rappelle un livre que j'ai lu il y a quelques années. Il s'agit d'un roman publié en 2008. L'année suivante, il a reçu le prix Goncourt du premier roman. Son auteur, Jean-Baptiste Delamo, avait alors 27 ans. Ce roman s'intitule « Une éducation libertine ». L'intrigue de ce roman, pourtant contemporain, commence en 1760. Elle se déroule à Paris. Les premières pages d'une éducation libertine évoquent l'arrivée à Paris de Gaspard, un jeune breton originaire de Quimper et âgé de 19 ans. Gaspard est issu d'une famille d'éleveurs de cochons. Au cours de sa toute première déambulation à Paris, il se remémore de vagues souvenirs de ses parents et de la vie misérable qu'il avait jusqu'alors vécue. Nous ignorons pourquoi il a décidé de quitter la Bretagne, mais certainement pour fuir l'avenir qu'il y attendait. Sans le sou, Gaspard cherche dès son arrivée un travail. Son premier emploi est pour le moins particulier. Gaspard doit s'immerger dans la Seine, afin d'y intercepter des troncs d'arbres jetés dans le courant par des bateaux transporteurs, puis ramener ses troncs d'arbres sur les berges. Il rencontre ainsi Lucas, qui effectue le même travail que lui. Grâce à ce collègue, Gaspard trouve une chambre à louer dans une modeste pension du centre-ville. Ce travail et la fréquentation de Lucas lui apportent un semblant de vie sociale. Toutefois, les pénibles conditions de travail dans la Seine éprouvent la santé de Gaspard. Un jour, il décide de quitter son travail et sa pension par la même occasion. Alors qu'il erre dans les rues de la rive gauche, il assiste au renvoi brutal d'un jeune apprenti par son maître. Très spontanément, Gaspard informe ce dernier qu'il recherche un emploi. Après un rapide examen visuel, Justin Billaude, perruquier de profession, engage Gaspard dans son atelier. Rapidement, les conditions de travail à l'atelier s'avèrent également éprouvantes pour Gaspard. Toutefois, ce nouveau cadre de travail lui permet de côtoyer une clientèle bourgeoise, voire noble. Parmi les clients de l'atelier se distingue un personnage énigmatique, Étienne de V. Justin Billaude en dresse à Gaspard un portrait peu flatteur pour l'époque. C'est un homme sans vertu, sans conscience. Un libertin, un impie. Il se moque de tout, n'a que faire des conventions, rit de la morale. Ses mœurs sont, dit-on, tout à fait inconvenantes. Ses habitudes frivoles, ses inclinations pour les plaisirs n'ont pas de limite. Il convoite les deux sexes. C'est un épicurien dépravé, un coquin licencieux. Loin de lui faire peur, ce portrait d'Étienne de V suscite chez Gaspard une étrange fascination. Sa fascination se confirme lors de la première visite d'Étienne de V à l'atelier depuis le recrutement de Gaspard. Étienne de V prête aussi une attention particulière au nouvel apprenti, allant jusqu'à le saluer et lui demander son avis sur son choix de perruque. Gaspard en est terriblement confus. 15 jours plus tard, Étienne de V se présente une nouvelle fois à l'atelier. Il est très tôt, Justin Billaude est encore endormi et Gaspard vient de se lever. Étienne de V comptait effectivement trouver Gaspard seul. Il lui propose de l'accompagner lors de ses promenades dans Paris. Il avertit que cette proposition et ses sorties ne doivent pas être dévoilées au maître perruquier. Bien qu'une nouvelle fois confus, Gaspard accepte. Cette rencontre est décisive pour Gaspard, qui s'engage dès lors dans une ascension sociale fulgurante. Si vous souhaitez découvrir les nombreuses péripéties qui attendent Gaspard, je vous donne rendez-vous à l'abbaye de Bordeaux, où une éducation libertine peut être empruntée. Pour être tout à fait précise, ce roman vous attend au rayon littérature et linguistique de la bibliothèque pluridisciplinaire. Il s'agit du site situé sur le cours Alsace-Lorraine à Bordeaux, à côté de l'arrêt tram Hôtel de Ville des lignes A et B. Dorénavant, je prendrai soin d'indiquer le site concerné de la BU pour ceux qui n'auraient pas un accès média à la plateforme de consultation Babor+. La semaine dernière, en effet, Léo m'a demandé sur quel site il pouvait emprunter ma recommandation du jour et je n'ai pas su lui répondre. ce qui m'a beaucoup ennuyée.
J'ai rien à lire depuis une semaine.
Revenons à notre roman. Pourquoi je vous en conseille la lecture ? Tout d'abord pour le style de Jean-Baptiste Delhamo. À peine votre lecture commencée, vous constaterez que Jean-Baptiste Delhamo a fait le choix d'une écriture très riche, foisonnante d'adjectifs et de termes soutenus, qui vous donnera l'impression d'être plongé dans un classique de la littérature française. Une éducation libertine n'est pas tant une imitation des romans publiés au XVIIIe siècle, période de l'intrigue. Ce roman associe plutôt des thématiques déjà présentes dans la littérature du XVIIIe, comme le libertinage, à des éléments plus caractéristiques de la littérature du XIXe siècle, tels que le choix d'un narrateur omniscient ou un réalisme extrême dans les descriptions des différents milieux sociaux. Pour ma part, je trouve ce mélange de styles très réussi. Par ailleurs, Jean-Baptiste Delhamo propose une approche renouvelée du roman d'apprentissage. En effet, le schéma narratif d'une éducation libertine est très courant dans la littérature, à savoir celui d'un jeune provincial qui monte à la capitale pour y faire fortune. Néanmoins, Jean-Baptiste Delhamo exploite de façon inédite les éléments structurants de ce schéma narratif. Par exemple, les intrigues amoureuses y constituent un moteur essentiel des ascensions sociales. Généralement, le jeune provincial développe son réseau grâce à une ou plusieurs maîtresses qui lui enseignent les codes de son milieu. Dans une éducation libertine, l'intrigue est portée par un personnage principal homosexuel, qui va pouvoir jouer sur ses liaisons avec des hommes, aussi bien que sur ses relations avec des femmes d'influence pour atteindre ses objectifs. En outre, Jean-Baptiste Delhamo délivre un point de vue inhabituel sur le Paris pré-révolutionnaire. Il prend le contre-pied des Lumières, courant de pensée majeure en France au XVIIIe siècle. Les Lumières véhiculaient l'idéal de l'honnête homme, guidé par sa conscience et son engagement en faveur de la société. Elles sont généralement associées à une certaine allégresse face aux changements politiques et sociaux ayant entraîné la Révolution. Bien au contraire, le XVIIIe siècle est présenté dans ce roman de façon plutôt péjorative. Le roman offre une représentation crue, organique et brutale de ses personnages et de la société de l'époque. L'intrigue est très incarnée. J'entends par là que Jean-Baptiste Delhamo n'appréhende les espaces qu'à travers la description physique des personnages. Par exemple, lorsque Gaspard découvre Paris, son regard se porte sur la multitude des personnages qu'il croise sans jamais considérer l'architecture des bâtiments ou la configuration des rues. À cet égard, Jean-Baptiste Delhamo décrit longuement les corps, les comportements, mais aussi les odeurs et les bruits. Plus largement, les personnages évoluent dans un environnement très sale. Les corps des personnages sont corrompus par la maladie et la mort, quel que soit le milieu social. La chair est omniprésente. Les aspects psychologiques ou moraux des personnages sont secondaires. Mais loin de repousser le lecteur, Jean-Baptiste Delhamo parvient à rendre cet univers trouble tout à fait captivant. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page et vous souhaite d'ici là de très très bonnes lectures.